16 février, il est 17h30 précisément. Bienvenue à l'aérospatiale avec Julie Gagné à l'animation, Jacques Gignac à la mise en onde et cette semaine comme co-animatrice, Dominique Savoie. Bonjour!
Salut!
Comment vas-tu?
Très bien!
De quoi nous parles-tu aujourd'hui?
En fait, aujourd'hui, je vous parle de deux expositions que j'ai visitées. La première à Materia, l'exposition de Marie-Hélène Alain, et la seconde, une exposition qui est à Gabriel Leroy de Francine Courchaine.
Francine Courchaine qui travaille?
Le textile.
Oh! Donc, on est dans tes cordes.
Dans mes cordes.
Excellent. Aussi, à l'émission cette semaine, on rencontre Esther Trépanier, la directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec, pour discuter de l'exposition Marc-Aurèle Fortin, l'expérience de la couleur qui a commencé la semaine dernière. On rencontre Michaël Pinault et Yannick Nolin, du collectif de l'établi pour l'exposition Sexy Polaroid. Et tout de suite, on écoute un topo de Jean-Pierre Gay qui couvre pour nous le mois multi. Il nous parle de l'installation de Robin Dupuis qui s'appelle L'Evixia et qui est présentée à la bande vidéo dans le cadre du mois multi.
Alors, je suis présentement à la bande vidéo devant l'œuvre de Robin Dupuis qui s'intitule L'Exiviat. Une œuvre qui est ici jusqu'à la fin du mois multi, donc c'est ouvert tous les jours de 12h à 17h et c'est gratuit. L'exiviat, c'est le liquide qui demeure après une percolation ou encore c'est le liquide qui découle d'un compostage, par exemple. Robin Dupuis, ici, a en quelque sorte produit un l'exiviat, mais un l'exiviat virtuel. Romain Dupuis, c'est quelqu'un qui participe au développement des arts médiatiques et des arts cinématographiques depuis longtemps dans un organisme qui s'appelle Perte de signal, dont il est cofondateur. On lui doit plusieurs expositions au Québec, au Canada et partout dans le monde. Il a une formation en cinématographie et en arts médiatiques. Et tout ça se rencontre ici dans ce projet. Il a donc créé ici, grâce à une résidence chez Avatar, un l'exiviat numérique à partir de particules chromatiques, donc de particules de lumière et d'échantillons sonores. Il a créé des grands ensembles de particules, autant de sons que de lumière, et a passé tout ça à travers, et là je vous fais grâce des détails et des techniques, mais à tout ça à travers des filtres numériques, des filtres informatiques. Le tout a donné une œuvre qui est ici où on voit et on entend le son. Et je vais vous faire un petit extrait. Donc, ce qu'on a ici, c'est un tout petit écran d'à peu près 5 pouces par 3 pouces qui présente justement les variations d'image, de lumière, variations qui fonctionnent aussi au rythme du son qui est présenté. Dans la perspective du mois multidose, qui veut se rapprocher davantage de nouvelles formes de cinéma, on est tout à fait dans le domaine du cinéma expérimental. Ça rejoint d'ailleurs son travail, le salon communiqué, ça rejoint ce que Henri Chaumette, un cinéaste des années 20, disait que le cinéma, ce qu'il recherchait lui, c'est la forme de cinéma pur, c'est-à-dire un cinéma qui se concentre sur la forme, sur les éléments essentiels du film, c'est-à-dire la forme, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire le mouvement, le rythme. Et l'exiviat, c'est tout à fait ça. Ce que vous avez devant vous, c'est vraiment du cinéma à l'état pur, c'est vraiment de l'image, du son et du mouvement de façon très abstraite. C'est ici donc, je vous le disais, jusqu'à la fin du mois multi, et c'est gratuit. À cette exposition, de même, à cette installation, de même qu'à celle qui existe déjà dans le hall de Méduse, vont s'ajouter, dès jeudi prochain, donc jeudi le 17, vont s'ajouter 5 autres expositions. Le vernissage a lieu jeudi le 17, justement, à 17h. Et tout ça est gratuit, évidemment. Vous aurez l'occasion de voir, notamment, parlant de la bande vidéo, un travail de Jean-François Côté qui va être présenté au studio d'essai. Et qui s'intitule « La chorale », de même qu'une œuvre de Caroline Gagné, issue d'une grande traversée en bateau de l'Amérique jusqu'à l'Europe, un projet qui s'appelle Cargo et qui s'annonce pour être de toute beauté. Alors, c'est Jean-Pierre Gay pour l'aérospatiale au Mois Multi. Je vous dis à la semaine prochaine.
On remercie grandement Jean-Pierre Gay pour cette précieuse collaboration. Avant de passer en musique, j'ai envie de vous inviter à nous écrire aérospatiale.ckrl@gmail.com. C'est toujours un plaisir de vous lire, de lire vos suggestions ou encore vos invitations à des événements en art visuel. On passe en pause audio. En fait, on va écouter l'album qu'on avait commencé à écouter la semaine dernière, Iceberg 2. On écoute la pièce d'Atheus. Elle s'appelle Analog Trap. Au retour, on discute avec Michael Pinault et Yannick Nolin sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un extrait d'Analog Trum d'Atheus qui est sur la compilation Iceberg 2011 qui a été lancée la semaine dernière au Cercle dans le cadre du Mois Multi. Comme je le disais avant la pause audio, je suis rejointe par Michael Pinault et Yannick Nolin pour parler des membres de, du collectif de l'établi pour parler de l'exposition Sexy Polaroid. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Allô, allô.
Ça va bien?
Ça va très bien toi-même?
Ça va très bien aussi. Un début de grippe là, mais je le contrôle activement.
C'est bien.
Ça peut expliquer des fois la confusion.
Puis c'est correct.
Oui, c'est ça, avant d'aller me coucher ce soir. Idéalement, pas avant l'aérospatiale, si je veux garder la confusion. Première question, en fait, pourquoi Sexy Polaroid?
Sexy Polaroid, je vais y répondre. Merci, Yannick. Sexy Polaroid, en fait, c'est que la deuxième expo du collectif de l'établi, on s'était donné un médium commun. En fait, on s'est dit, on va utiliser un appareil du passé, qui était un Brownie. On était sur des trips de vieux appareils photo, puis on s'est dit, bon, on va utiliser ça. On a fait une expo avec ça qui s'appelait l'expo Brownie. Maintenant, on s'est dit, on pourrait aller plus loin, utiliser non seulement un médium commun, mais aussi se donner un thème. Puis, je suis fan de Polaroid, j'ai proposé à tout le monde qu'on utilise le Polaroid. Et le Polaroid servait beaucoup pour faire des petites photos coquines. Quand on développait du négatif, il n'y a pas si très longtemps, c'était les ancêtres de l'instantané d'aujourd'hui, en fait. Parce que les gens n'avaient pas à faire face au regard du petit monsieur au comptoir.
À la pharmacie
quand ils faisaient développer leur truc. Fait qu'on a un peu bougé là-dessus. Puis moi, je faisais déjà un peu de la photo sensuelle, la photo nue. Fait qu'on est allé là-dessus, puis on a poussé plus loin. On n'est pas le thème peut sembler racoleur à première vue, mais comme les gens pourront constater d'eux-mêmes quand ils viendront voir l'expo, c'est vraiment très artistique et très 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 respectueux comme photographie.
Il y a une certaine pudeur aussi là. On tombe pas non plus dans le trop coquin justement.
Oui, tout à fait. On voulait pousser le thème plus loin un peu, tu sais, se garder un petit thème sensuel. En même temps, ça donnait avec la Saint-Valentin, fait que ça fitait bien aussi. Mais on voulait se donner un thème sensuel, mais sans nécessairement que ce soit racoleur, irrespectueux ou quoi que ce soit. Là.
Ou que ça soit trop circonscrit aussi. Là,
oui, tout
si
à
on
fait.
Va dans le sensuel, là, c'est large.
Mais en même temps, c'était libre à chacun. Hein? Il y a pas, tu sais, à partir de là, chacun décidait qu'est-ce qu'il faisait, fait que ça aurait très bien pu arriver avec de quoi de...
D'explicite,
mais c'est pas ce qui est apparu.
Puis qu'est-ce qui vous inspire dans le Polaroid?
Ben, dans ce cas-ci, je trouve que les couleurs que le Polaroid donne, c'est inspirant en soi. Quand tu sais comment les chimies réagissent à chacun des films qui sont différents, parce que nous, on a fait affaire avec Impossible pour beaucoup de nos films. Impossible Project, qui est une compagnie à New York, qui ont refabriqué le film Polaroid. Michael, il en sait encore plus parce que c'est lui qui communique beaucoup avec eux. Mais on est allé les rencontrer, puis on a regardé les effets que leur film avait. Puis c'est des teintes de couleurs. Donc dans cette optique-là, pour nous, ça a été très, très, très inspirant. Puis c'est pour ça qu'on trouvait ça inspirant plus que justement le petit bruit mécanique de la sortie de la photo et tout ça, là, non?
Parce que c'est vrai, les couleurs, en fait, t'en parles, Yannick, c'est des couleurs qui sont pas éclatantes. Là. Il y a un petit côté un peu pastel, un peu décoloré. Ça fait vintage, là, carrément.
Mm-hmm. Tout à fait.
Tout à fait. Puis on est comme dans un entre-deux aussi, parce qu'on est à la fin de l'époque Polaroid qui faisait les films Polaroid. Polaroid aurait été d'en produire en 2007. Et puis Impossible a racheté l'usine. On recommençait à reproduire parce que Polaroid avait gardé leur brevet. Donc, ils repartent du début, ils refont des nouveaux films, ils refont le processus. Fait qu'on est comme entre deux, on est au début d'une époque puis à la fin d'une autre, donc les anciens films Polaroid sont expirés, donc sont pas vraiment beaux. Des fois, ils font des drôles de résultats. Pour nous, c'est super intéressant, on aime ça aussi. C'est sale, des fois, les chimies sont décolorées. Et c'est la même chose avec les nouveaux films parce qu'ils sont en expérimentation continuelle, donc des fois, ils réagissent, ils sont beaucoup plus capricieux que les anciens films Polaroid. Ils réagissent plus difficilement, ils réagissent à la chaleur, au froid, tout dépendant de la lumière.
Ah ouais.
Ils vont avoir une tonalité de couleur, tonalité, pas une tonalité, mais une couleur qui va, une teinte qui va être différente si la lumière est tungstène, si c'est une lumière du jour, dépendant de la température, etc.
Ça vous oblige à travailler avec le hasard au bout du compte, puis à travailler avec l'accident aussi, j'imagine, à intégrer ça dans vos photos?
En effet, puis en plus, il faut, avec ces films-là, il faut développer une technique pour cacher le film instantanément, fallait coller un vieux Polaroid par-dessus pour, quand il sorte, éviter qu'il s'ouvre en contact avec la lumière directement. Donc, c'est tout de suite à l'envers, puis on attend le 3 à 5 minutes pour que le film se développe. Et ensuite, c'est d'attendre, c'est l'effet de surprise.
Ben ouais,
le shooting en soi est beaucoup plus long qu'avec une caméra numérique. Tu prends la photo, tu regardes, ça finit là. Là, comme il dit, le film est très, très sensible dans les premières secondes de sa sortie, donc il faut qu'il soit caché. Puis ensuite, il est plus long à développer que l'ancien film. Donc, c'est dans ton shooting ou, je sais pas, dans le moment que tu shoots, puis tu n'as pas le résultat tout de suite. T'attends un petit instant, puis là, ben, si ça plaît pas, oh, ben là, faut que tu reviennes un peu en arrière, donc ça peut être plus long, plus fastidieux, un peu fastidieux comme.
J'imagine qu'à la limite, il y a quasiment un rituel là, qui embarque dans le shooting, là, d'être obligé comme ça de poser une série d'actions. J'imagine que le rythme aussi de travail doit considérablement être allongé, là, parce qu'on n'est pas dans le numérique où on prend photo sur photo sur photo, puis après, on fait le tri. Comment ça se passe avec. Parce que toi, Michael, je sais que tu as travaillé avec des modèles. Comment ça se passait? Ça devait être assez ardu pour les modèles aussi.
Non, ben en fait, je leur ai expliqué à la base que c'était du Polaroid puis que ça allait être beaucoup plus long et plus lent qu'un shooting normal parce que tu prends une photo, tu la laisses là, tu la développes. Moi, j'avais deux appareils avec deux sortes de films différents, donc ça me permettait de pouvoir jouer entre les deux. Mais en même temps, des fois, c'est comme, bon, OK, on prend une pause, on regarde les photos un peu, qu'est-ce qu'on a, puis bon, on recommence. Le processus est un petit peu plus complexe, mais en bout de ligne, ça s'est très, très, très bien passé. Là.
Puis tout à l'heure, en fait, vous parliez d'instabilité, soit des vieux films, des vieilles pellicules Polaroid ou encore des nouvelles. J'imagine aussi que c'est, entre autres, pour ça que vous avez décidé de procéder, de scanner les images puis de les agrandir.
Oui, entre autres, et aussi que certains films, des fois, vieillissent, ils continuent d'exposer. Puis on perd l'image. Ça nous est arrivé avec des premiers films que le film disparaît complètement. T'as l'impression d'être dans Retour vers le futur quand que Marty McFly il perd toute sa famille, mais c'est un peu... c'était le fun à vivre.
Ouais.
En fait, ça me fait penser parce que il y a une chose que j'ai beaucoup ressenti en regardant l'exposition, c'est vraiment le caractère éphémère. C'est comme si je sentais en regardant les photographies que c'est vraiment un instant qui était là et qui est déjà passé. J'imagine que le fait comme ça de devoir tout de suite scanner les images avant que le film, l'image disparaisse, ça accentue probablement.
Oui.
Pouvez-vous, nous parler un peu de vos propositions, Yannick?
Ben moi, j'ai fait trois photos, un diptyque en fait et une solo. Ma solo, en fait, c'est architectural, on pourrait dire. C'est du sexy architectural qui s'appelle le Sexy Broussaille, qui est la devanture du bar La Broussaille. J'y étais dans le noir et blanc pour celle-là, mais elle aurait pu très bien se faire en couleur parce que l'édifice en soi est coloré et mauve rose. Donc, mais je sais pas, ça faisait sortir l'affiche qui est un peu obscure aussi, qu'on a de la misère à déceler. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de mystérieux là-dedans. Le vintage aussi, avec le dessin qui est tout dessiné, qui en fait, je crois que c'est quelqu'un de la famille Amic qui a dessiné ça en plus. Fait que c'est un bel addon par la suite.
Oui, parce qu'on est en 2011. Ouais. Puis ça fait effectivement comme ça avait été fait à l'époque des Polaroids.
Tout à fait.
Au moins 60, là.
Oui, quasiment.
Puis sinon, le diptyque, c'est j'ai fait ça sur Passion et quelque chose dans le genre.
Oui, Passion.
Non, Passion sur le boulevard Charest, un magasin érotique. Où ce que c'est encore architectural, c'est... en fait, c'est une vitrine de la boutique avec un escompte, ma foi, digne d'un bel escompte pour des DVD et avec de l'amour dans l'air. Et les teintes de rosée aussi, fait que c'est le cœur qui était répété aussi dans ce diptyque-là. Il y a une fin de G-Point, puis c'est ça.
Ouais,
c'est
vrai.
Le parallèle entre les deux avec les cœurs, la couleur se mixait bien, donc...
La sexualité comme produit de consommation.
Et
là,
voilà, mais en même temps, c'est justement... Je parlais de ça de mon nom, je me souviens plus avec qui, mais l'érotisme est vraiment plus présent que le sensuel maintenant. C'est beaucoup plus ça. Donc, j'ai été montré peut-être des côtés, des choses érotiques, mais d'essayer de le montrer sans que ça soit explicite en soi, mais plutôt humoristique.
Avec une approche un peu plus reportage, à la limite. Ben, dans son approche, pas dans son fini, en tout cas.
Exact.
Ouais.
Puis toi, Michael?
Moi, techniquement, j'ai utilisé 5 films différents. Donc, des films de l'ancienne époque, 2 films de l'ancienne époque Polaroid, puis 3 nouveaux de Impossible. Puis, moi, j'ai fait des shootings avec des modèles qui recréent un peu une ambiance... petit matin, une ambiance instantanée. Pour moi, je trouve que la sensualité puis l'image de la femme est vraiment beaucoup dénaturée dans notre société. C'est beaucoup pour vendre un produit. Elle est maquillée, surmaquillée, retouchée dans Photoshop, huilée, bikini, pose sexy, etc. Puis moi, ben pour moi, la sensualité, parce qu'on est allé sur chacun, c'était pourquoi la sensualité. Ben pour moi, c'est plus des instants, c'est peut-être plus un petit moment, c'est peut-être plus une pause, c'est peut-être plus un regard. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai utilisé un peu, j'ai recréé un peu des scènes matinales, des scènes plus un peu plus quotidiennes.
Sur le vif aussi, là,
oui,
justement, là, dans l'instant présent, toujours, j'imagine, en gardant le Polaroid en tête, comment ça capte un instant.
Tout à fait, en plein ça. Comme je sais pas, moi... comme un amoureux pourrait prendre une photo de son amoureuse,
ben ouais,
à la limite.
Est-ce que vous pouvez nous parler du travail des autres membres du collectif aussi? Parce qu'il y a quand même pas mal de propositions différentes.
Tout à fait. Ben, pour rester dans la façade, mettons, avec La Broussaille, il y a Julie qui est allée, avec une danseuse.
Julie Lambert,
qui est une des, oui, qui est une des membres fondatrices de l'établi et qui fait partie du collectif des 7. Elle a été, elle a accompagné durant une journée de temps une danseuse qui est au Folichon, je crois.
Je sais pas, on peut, il faut taire l'endroit.
Ouais, c'est ça. Puis on peut faire de la publicité pour l'endroit. Mais non, ça, blague à part, c'est elle à l'accompagner durant une journée et voir le quotidien de la danseuse pour aller se préparer là-bas.
Du réveil jusqu'à son premier spectacle.
Ouais, même on la voit texter, on la voit bon se questionner. Il y a des commentaires aussi là dans le bas des photos.
Oui. Exact. Sinon, ben il y a Hélène Bouffard qui a fait un homme à poil qui est très représentatif quasiment d'une photo des 1800 quelques et non, mais avec une teinte d'humour aussi au travers, mais qui est
un homme à poil dans le poil.
Et voilà, oui, dans le poil. Oui. Sinon, Michael peut continuer.
Sinon, je pense à Stéphane qui a utilisé beaucoup de médiums différents aussi, quelques sortes de films différents, la façon dont il a présenté est différente aussi. Un petit peu plus, je dirais, ben, pas classique comme approche, mais un peu plus, oui, peut-être un peu classique comme moi, un peu dans la façon de traiter les images. Très sensuel, très doux, des belles tonalités de couleurs.
La netteté aussi, oui, avec les appareils qu'il a utilisés.
Oui, c'est vrai, hein, ça tranche. Il y en a des images qui sont très, très nettes. Oui.
Tout à fait. Sinon, après ça, il y a
Hugo Lemieux,
Fournier, qui nous propose de quoi d'un peu plus, je dirais, pas expérimental, mais presque.
Mais c'est dans les teintes qu'Hugo utilise beaucoup. Ouais. Je sais pas si on peut dire délavé, mais
c'est Pierre. Hein? Est-ce que c'est lui qui travaille avec la sépia?
Il utilise beaucoup le vert noir, Hugo, dans son travail. Puis je pense qu'il a continué dans cette touche-là aussi avec le Polaroid, mais qui reste un peu mystérieux. Tu cherches à comprendre qu'est-ce qui se passe, puis c'est beaucoup le travail d'Hugo, je pense, de y aller comme ça.
Oui, tout à fait. Ensuite, il y a Pierre-Marc qui nous propose un regard hivernal, sexy, avec une jolie modèle aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Pierre-Marc?
Il y avait c'était Corinne et Sandrine, je crois, ces deux œuvres. Et c'était les pompons de la tuque qui arrivaient vis-à-vis les seins en plein hiver. Et sinon, l'autre, c'est une photo qui semble prise au petit réveil.
Oui, tout à fait.
Ouais, avec sa copine, je crois. Donc,
puis les réactions devant l'exposition?
Ben, il y a passé beaucoup de monde. Il y a passé pas loin de 300 personnes dans la soirée. Donc, on imagine que aux petites heures, il restait encore beaucoup de monde. Soit que l'ambiance était le fun et que les œuvres, le monde, ça leur dérangeait plus ou moins. Mais je crois que les critiques sont bonnes. On a eu des beaux messages dans le livre. Mais en plus, on a mis un livre où ce qu'on a fait d'autres esquisses qu'on avait prise, mais qu'on n'avait pas décidé de développer.
Oui, le vieil album. C'est vraiment un vieil album de photos aussi.
Et même dans ce livre-là, il y aurait pu avoir d'autres œuvres à faire agrandir, mais en même temps...
Il fallait choisir.
Exact. Ouais. Puis il y a du monde qui nous ont dit qu'on aurait dû en faire plus, mais ça a été fait assez vite. On est assez rocambolesque des fois, ça a été parfait.
Ben, il y a Michael Pinault, Yannick Nolin, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.
Donc l'invitation est lancée, l'exposition Sexy Polaroid des membres du collectif de l'établi se présenter à l'établi sur Saint-Vallier-Est jusqu'au 30 février.
Le 30 février n'existe pas, au 28. C'est une faute, c'est nous-mêmes qui avons commis cette faute dans l'élaboration.
Et vois-tu, moi j'ai suivi aveuglément et j'ai écrit le 30 février, donc voilà, c'est jusqu'au 28 février. On s'en va en pause audio, on écoute toujours un extrait de Iceberg 2011, La Forge avec Il pleut des oiseaux sur les ondes de CKRL. Thank you. On vient d'entendre un extrait de La Forge avec Il pleut des oiseaux, tiré de la compilation Iceberg 2011. C'est l'heure du calendrier. Encore une fois, il y a énormément de choses. En ce qui concerne le mois multi, je vous dirais tout simplement, allez à Méduse, circulez, il y a des installations un petit peu partout, que ce soit à l'œil de poisson, à la bande vidéo, au studio d'essai, à la salle multi, etc. La semaine dernière, en entrevue, on parlait avec Raphaël Degroot au sujet de son installation à la Chambre Blanche, Le Poids des Objets. Elle avait parlé d'une performance. Elle aura lieu ce jeudi dès 17h, donc performance qui sera faite dans la réserve muséale du Musée de la Civilisation, de la réserve bon, de la Capitale Nationale, etc. Ce sera diffusé en direct à la Chambre Blanche. Ensuite, le 17 février aussi, vernissage de l'exposition. Et là, je suis vraiment pas certaine de le dire comme il faut, mais je me lance fuite au carré de Diane Goujon à la Galerie des Arts Visuels. Le 17 février aussi, à 18h, faut avoir le don d'ubiquité, vous savez, hein, c'est toujours en même temps, tous les événements. Il y a une causerie avec Marie-Hélène Alain, avec une visite commentée de l'exposition et la présentation du film Genèse de l'exposition « Oser l'aventure de la création ». Vendredi, encore le don d'ubiquité, vernissage de Richard Max Tremblay, Des fenêtres et Kyle Kunjak Carney à vue. Puis vernissage aussi à la Galerie de Zara pour l'exposition Prix Tristan qui présente des œuvres de notre chroniqueuse Alok Deloge, de Caroline Sullivan et Elodie Gros. Samedi à 13h, vernissage de l'exposition Riopel, mémoire d'atelier qui est présentée à la Galerie Michel Beaumont. Et le 19 février à 14h au Musée national des Beaux-Arts du Québec, une conférence sur Marc-Aurèle Fortin, une petite psychanalyse. On fait une courte pause. Au retour, on discute avec Esther Trépanier, directrice générale du Musée national des Beaux-Arts du Québec.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, Le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. Des après-midi dédiés aux nouveautés d'ici et d'ailleurs au pays. Une programmation résolument actuelle à l'image du Cercle.
À ne pas manquer en février, Pêche à Coucha Québec dans le cadre du mois multi le 16. Le lancement du nouvel album de Black Tabou le 18. Le 19, le brunch animé avec Bruno Serré. Hommage à Weezer avec le groupe Sheezer le 24. Le lancement de Plume, premier disque solo de Karim Ouellet le 25. Et la formation de Louyas le 26.
Le trait d'union cercle.ca.
CKRL passe en mode financement. Devenez membre de CKRL pour seulement 25$ et soutenez la création radiophonique la plus inédite. Être membre de CKRL, c'est encourager les artisans bénévoles qui créent 365 jours par année des émissions de grande qualité. Être membre, c'est aider la relève artistique en musique, arts visuels, théâtre, littérature et la danse. Profitez de votre carte de membre en adhérant maintenant au coût de 25$ et bénéficiez de rabais chez plusieurs marchands de la région de Québec. À noter que votre carte est maintenant valide pour un an à la date d'adhésion. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de 300$ du restaurant Le Poisson d'Avril. Téléphonez au 88 640 2575 ou adhérez en ligne à ckrl.qc.ca. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h.
Le 19 février, de 13 à 14h, CKRL vous présente Contes de fées, animé par Olivia Vu en direct du Studio P. Au menu, via Skype, des entrevues avec Noémie Forget et Mélanie Watt, la chronique de Tania Masso, libraire chez Pantoute, et une lecture avec la comédienne Isabelle Beaulieu. Des gourmandises seront offertes, une courtoisie de la boîte à pain Café Napoli. Prix de présence en livre à la fin de l'émission. Entrée gratuite. Une invitation de CKRL, de la librairie Pantoute et du Studio P. 280 rue Saint-Joseph-Est. CKRL.
Cultive tes goûts.
Oh.
18h précisément. On est toujours le mardi 15 février 2011. Vous connaissez mon amour de la précision. Vous écoutez toujours l'aérospatiale avec Julie Gagné à l'animation, Jade Gignac à la mise en onde, Dominique Savoie qui se fait discrète mais qui nous fera sa chronique un peu plus tard dans l'émission. Et comme je l'annonçais avant les publicités, en ce moment au Musée national des beaux-arts du Québec, il y a l'exposition Marc-Aurèle Fortin, l'expérience de la couleur. Et pour en parler, on rencontre Esther Trépanier, directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec. Bonjour.
Bonjour, Julie.
Ça va bien, l'exposition? Oui. Ça roule,
oh,
hein?
Oui, écoutez, c'est ouvert depuis quelques jours seulement et on a vraiment un public passionné et de tous âges.
Oui, effectivement.
C'est ça qui est intéressant parce qu'on aurait pu penser, ah oui, un paysagiste québécois, etc. Et moi, ce qui m'a fascinée, entre autres avec des jeunes qui travaillent dans les médias comme vous, c'est que pour eux, c'est comme une découverte.
C'est vrai, hein, parce qu'on connaît beaucoup Marc-Aurèle Fortin, j'allais dire sous leur côté.
Qu'on en parlait avant d'entrer en onde.
Mais on le connaît beaucoup pour ses armes, mais quand même, l'exposition nous réserve beaucoup de surprises.
Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on retrouve à la fois, bon, ces fameux grands arbres là, qui commencent dans les années 20, qui dans l'exposition est intitulé Le Vert Paradis, parce que c'est exactement ça, parce que on a eu l'occasion d'en voir un ici, un là, des fois deux, des fois trois dans une galerie. Mais là, il y en a une quantité qui sont réunies, qui viennent entre autres de collectionneurs privés. Donc, c'est des œuvres qu'on a une chance unique de voir parce qu'elles vont retourner ensuite chez les collectionneurs. Bon, évidemment, on connaissait aussi les villages de la côte de Beaupré, de Charlevoix, bon, tous ces villages, Saint-Siméon, tous ces villages traditionnels aussi qui sont assez connus de Marc-Aurèle Fortin, qui sont le lieu d'expérimentation terrible. Terrible au sens d'extraordinaire.
Incroyable.
Là, je dis oui, pas au sens de... mais ce qui est intéressant, c'est que la première salle, parce que c'est une très grosse exposition... Là, de
oui, il y a plus d'une centaine d'œuvres.
Ah oui, on n'est pas loin de 108 œuvres, dont 64 qui viennent de collectionneurs ou 65 qui viennent de collectionneurs privés. Alors, ça, c'est assez inouï. Mais cette première salle dont je parlais est vraiment le lieu de découverte pour plusieurs d'entre nous. D'une part, les œuvres de jeunesse. Je vais être très franche avec vous. Je ne les avais jamais vues autrement qu'en petite reproduction, grosse comme des timbres-poste à peu près. Alors, c'est fascinant. Vous savez, comment un artiste arrive à maturité? Comment, tranquillement, un artiste explore des thématiques, explore des procédés avant de fixer ce qui va être son espace, si j'ose dire, d'expérimentation. Et on a suffisamment d'œuvres de jeunesse et d'œuvres de transition dans cette expo pour suivre ce cheminement-là. Ça, c'est le fun. D'autre part, on a aussi plusieurs sections sur Marc-Aurèle Fortin et la ville.
Ouais, hein, c'est plutôt rare.
Ah oui, ben c'est-à-dire que les vieilles historiennes de l'art comme moi connaissaient ça parce que bon, moi je suis une historienne qui s'est beaucoup intéressée à la ville dans l'art québécois, mais je le connaissais, mais je pense qu'on n'était pas si nombreux que ça à le connaître. Et là, on a vraiment tous les points de vue à partir duquel il a peint la ville, c'est-à-dire depuis l'île Sainte-Hélène, depuis le Mont-Royal, depuis le port de Montréal et surtout depuis Hochelaga.
Mais oui.
Ah, qui est évidemment Hochelaga. Bon, il faut voir que Fortin a peint beaucoup la campagne, comme on le disait, mais c'était l'été essentiellement. Tu sais, il mettait sa bicyclette sur le train puis il partait. Et la plupart du temps, donc, automne, hiver et début printemps, c'est un artiste qui vivait en ville, bon, pour une grande partie de sa vie, en tout cas, à Montréal. Et il va peindre Montréal, beaucoup, mais d'une manière qui lui est très, très originale.
C'est ce que quoi, justement, hein, parce que moi, je pense à Adrien Hébert, aussi, qui a beaucoup peint Montréal,
oui,
mais Marc-Aurèle Fortin le fait vraiment différemment.
Absolument. Moi, quand j'étais très jeune, ça a été un des sections importantes de ma thèse de maîtrise, je le dirais,
ouais, bon.
Cette différence entre Marc-Aurèle Fortin et Adrien Hébert. Parce que, un, ce sont des contemporains, deux, ils se connaissaient, ils se fréquentaient, ils étaient même, disons, amis. Or, systématiquement, mais je dis bien systématiquement, chez l'un comme chez l'autre, l'œil du peintre est toujours situé de manière radicalement différente, pour ne pas dire opposée. Hébert, auquel vous faisiez allusion, est un peintre qui aime la ville moderne, qui aime l'architecture rationaliste.
Qui la célèbre.
Qui la célèbre. La vie en ville, c'est le fun. Donc, l'œil du peintre est toujours dans la ville. Avec les élévateurs monumentaux qui cadrent la surface, les fumées des transatlantiques ou des trains qui envahissent l'espace, on voit à peu près pas de ciel, puis quand on en voit, il y a bien de la fumée dedans. Ces scènes de port, c'est les transatlantiques, les débardeurs, les élévateurs à grès. S'il y a de l'eau, c'est une petite eau polluée qui navigue vaguement entre les bateaux. Autrement, c'est des scènes de rue, mais du centre-ville, les vitrines, les néons, les panneaux publicitaires, les gens qui circulent, etc. Donc, la joie d'être en ville, dans les parcs aussi où il peint, vous connaissez certainement ces tableaux avec les skieurs au parc La Fontaine, sur la montagne, etc. Tout au contraire, Fortin se situe systématiquement à l'extérieur de la ville. Il la peint depuis un espace qui est toujours rural ou paysager, l'île Sainte-Hélène, les butons encore agricoles d'Hochelaga, le haut du Mont-Royal, bon, qui est un grand parc. Et la seule exception, bien sûr, c'est le port de Montréal, mais j'y reviendrai. Donc, il se situe toujours à l'extérieur de la ville, de manière telle que ces grands motifs qui sont récurrents dans toute sa peinture, les arbres, dont la densité plastique est quasiment équivalente à celle des arbres, quand c'est pas plus dense encore par les effets expressifs de la ligne, les grands arbres, les terrains encore semi-agricoles, tout ça crée une espèce de circularité qui littéralement ramène la ville à une portion intermédiaire.
Oui, hein, souvent, on voit très peu de ville.
Absolument. Et même quand elle est un peu plus grande, l'arbre et le nuage sont toujours dominants. Donc, c'est vraiment une espèce de choix esthétique. Parce que, bon, mais je veux dire, ni Hébert, ni Fortin ne sont des photographes, là, même si dans le cas d'Hébert, des fois, il y a des effets photographiques. Mais dans les deux cas, c'est un choix. Un qui choisit la ville et l'autre qui choisit peut-être de porter un regard nostalgique ou en retrait d'une ville qui, bien sûr, est en train d'envahir l'espace rural, mais qui, dans le tableau de l'artiste, est toujours quand même dominée par la nature. L'exception, le port de Montréal, parce que là, forcément, si tu veux peindre le port, tu dois être dedans. Mais vous remarquerez dans tous ces tableaux, que ça soit, par exemple, l'incendie du port de Montréal, du Musée des beaux-arts du Canada, bien, je veux dire, qu'est-ce qui domine? L'eau, le feu et le ciel. L'air, l'eau, le feu, les éléments naturels. Et les transatlantiques sont ramenés à des petits bateaux. Là, tu sais, ça fait pas bateau à voile, mais pas loin. Les structures industrielles qui sont en feu, dans le fond, on les voit presque comme des jouets pour enfants, tellement elles sont ramenées à peu de choses. Une jolie structure, mais qui est encore en construction, qui n'est pas finie, qu'on retrouve dans des gravures, qu'on retrouve dans des aquarelles, qu'on retrouve dans des peintures. Le pont du Havre en construction, c'est-à-dire le pont Jacques-Cartier, qui a été rebaptisé, donc Jacques-Cartier en 34, le pont du Havre a ouvert en 1930, et qui est en construction, donc qui ne couvre pas jamais la totalité de la surface.
C'est vraiment un choix. En fait, moi, il y a une question que je me pose, ou peut-être une réflexion aussi que j'ai au sujet de Marc-Aurèle Fortin, parce que on parle beaucoup au Québec à l'époque du paysage, du terroir comme faisant partie d'une construction d'un art nationaliste. Marc-Aurèle Fortin voulait en faire aussi, mais en même temps, il y avait une certaine marginalité. Est-ce qu'on pourrait le situer à mi-chemin entre tradition et modernisme?
Comme historien de l'art, historienne de l'art, puisqu'on est trois filles ici, là, oui. C'est-à-dire que en le faisant, cependant, on va contre la volonté de l'artiste. Je m'explique. Fortin a toujours refusé ce qualificatif de moderne. Jean Chauvin disait, je m'attendais à avoir un artiste moderne à cause des, en 1928, là, à cause des effets de couleur, et j'ai trouvé quelqu'un qui était contre le modernisme. Mais entre dire une chose et donner à voir autre chose, il y a là toute l'ambiguïté du créateur. Mais par ailleurs, Fortin, tout aussi explicitement, déclarait vouloir faire un art national comme les Américains. Ses modèles étaient plus les grands paysagistes américains.
Il avait étudié à Chicago aussi.
C'est ça, exactement. Donc, il veut faire une école nationale, il veut faire un art dans lequel va circuler justement cette espèce de de vivacité, parce que son art est très vif et très moderne, de vivacité du pays. Donc, tout au long de sa carrière, d'ailleurs, les critiques d'art, parce que moi, je me suis beaucoup intéressée à la réception critique, vont tout aussi bien. Les nationalistes, ceux qui sont pour le terroir, vont récupérer Fortin comme grand chantre de notre pays, mais tous les critiques en faveur d'un art moderne, eux vont le récupérer à cause de ses expérimentations formelles, et ça va durer jusqu'à sa mort. C'est assez amusant, même Pierre Bourgault, le fondateur du RIN en 60, en fait un grand héros national dans un article absolument incroyable. Donc, Fortin, effectivement, si on parle maintenant plus en historien, non pas ce que l'artiste a dit, par ce qu'il donne à voir, mais aussi par ses thèmes qui sont parfois très ruraux, qui sont en effet souvent beaucoup plus nostalgiques de la vie rurale. La ville étant, tu sais, comme toujours contrainte, on veut la dominer par la nature. Donc, il n'y a pas cette adhésion à l'urbanisation, à l'architecture moderne comme il y a chez Hébert. Donc, Fortin, effectivement, peut se situer du côté de cette tradition que vous évoquiez tout à l'heure. Par contre, par le caractère très audacieux de ses expérimentations formelles, il tranche par rapport à l'impressionnisme des Collines, des Suzor-Côté et autres artistes de cette tradition nationaliste, si vous voulez. Il est plus proche du groupe des Sept par son audace.
Effectivement. Oui. Bon, on n'en a pas encore parlé, mais c'est dans le titre de l'exposition. Marc-Aurèle Fortin, l'expérience de la couleur. Oui. Elle est stupéfiante chez Marc-Aurèle Fortin.
Elle est absolument stupéfiante. Et moi, personnellement, ce qui me ravit, c'est qu'elle n'est pas toujours vraisemblable. J'entends par vraisemblable, je vous regarde, vous avez un T-shirt noir, enfin, vous êtes en noir et gris. Ben, Fortin vous mettrait, s'il vous travaillait au pastel, des ombres violettes, probablement un visage pêche. Bref, particulièrement quand il travaille au pastel, il est d'une audace colorée, que ce soit dans ses paysages ou ses scènes urbaines, absolument quasi fauve, je dirais. Les maisons de Montréal deviennent des blocs roses, violets, orangé, bleu, ciel, alors qu'on sait toutes que c'est rouge brique, là, dans le quartier Hochelaga, ou gris. Par ailleurs, on pourrait dire, oui, les arbres sont bel et bien travaillés en vert, mais mon Dieu, qu'on est loin de la peinture académique, parce que c'est 1000 touches scintillantes de 1000 tonalités de vert, des verts jaunes, des verts gris, des verts. Et c'est une couleur qui éclate. Et plus on avance, plus il maîtrise son style, justement, plus on s'écarte de ses œuvres de jeunesse, plus on constate, en effet, que la couleur semble surgir quasiment, un peu comme les maisons qui deviennent moins rectilignes, plus en mouvement, plus expressives, et que c'est une espèce de surgissement de la couleur, en même temps que c'est une espèce de surgissement de l'expressionnisme de la ligne.
Ouais.
Donc, il s'éloigne de la vraisemblance, tout en étant un art qui reste parfaitement figuratif.
Effectivement. Des couleurs, en fait, qui sont vibrantes parce qu'il faut dire, Marc-Aurèle Fortin utilisait souvent des fonds sombres animer les couleurs.
Dans ses peintures à l'huile particulièrement et plus particulièrement à partir des années 30, effectivement, ça, c'est amusant parce que, vous savez, dans la tradition impressionniste, on a considéré, bon, vous savez, dans la grande tradition académique, on faisait une espèce qu'on appelait le jus de pipe, c'est-à-dire qu'on apprêtait la toile en brun et là, tu peignais du sombre au clair. Donc, les dernières touches posées étaient les blanches, les jaunes, les blancs, les jaunes très clairs. Quand il y a eu la révolution, si j'ose dire, entre guillemets, impressionniste, ça a consisté à travailler l'huile comme l'aquarelle, c'est-à-dire en apprêtant ta toile blanche avec du blanc, ce qui donnait effectivement cette luminosité incroyable. Et c'est amusant de voir, bon, pas dans l'aquarelle évidemment, mais parfois dans le pastel par la couleur du papier et beaucoup dans l'huile, Fortin va réappliquer, dans le cas de certains tableaux à l'huile, des fonds gris, verdâtre, noir, parfois carrément noir, et donc reprendre ce travail du sombre vers le clair, mais non pas pour rendre l'illusion parfaite de l'académisme, mais au contraire, pour faire éclater des couleurs très pures. Alors, c'est assez parfois spectaculaire, il faut bien le dire.
Effectivement. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. J'aurais aimé discuter encore davantage, hein, 15 minutes pour parler d'un grand artiste comme ça, de l'art québécois, c'est très peu. Mais Esther Trépanier, je vous remercie.
Ben, ça a été un plaisir. Puis écoutez, venez le voir au musée, vous pourrez entre vous continuer la discussion.
Effectivement, assurément. Regardez la discussion, elle est assurée de toute façon en regardant l'exposition. Donc c'est Marc-Aurel Fortin, l'expérience de la couleur qui est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec jusqu'au 8 mai. Madame Trépanier, merci encore. On s'en va en pause audio, on écoute Bleu Pulpe avec You Checked On Me sur les ondes de CKRL. Toujours à l'aérospatiale, on vient d'entendre un extrait de Bleu Pulpe, ou Bleu Pulp, je sais pas trop s'il faut le dire en français ou en anglais. You Checked On Me sur la compilation Iceberg 2011. Et là, c'est le moment de gloire de Dominique
Savoie.
Faut
pas exagérer.
N'exagérons rien. Dominique, tu nous parles de deux expositions.
En fait, oui. Je viens vous parler de deux dames, qu'on pourrait dire, d'expérience, qui œuvrent dans le milieu des arts depuis plus de 30 ans. Souvent, on couvre ici des gens qui sont plus de l'ordre de la relève artistique. Donc,
ouais.
On va se dire que là, on est plus de l'ordre de l'expérience artistique. La première, en fait, expo que j'ai visitée, c'est celle qui est présentement à Materia. Marie-Hélène Alain, dont tu as parlé tout à l'heure, là, qui va offrir jeudi à 18h une genre de conférence rencontre là avec l'artiste là qui pour répondre aux questions parler un peu de son exposition. En fait, Marie-Hélène Alain, c'est une artiste du Nouveau-Brunswick qui est là, chose surprenante.
Oh, roulement de tambour.
Tadadam, qui a 76 ans.
Oh, quand même, hein?
Oui,
on parle d'expérience.
On parle d'expérience. Ouais, donc, c'est une dame de 76 ans qui fait présentement une résidence, merci, à la Maison des métiers d'art en sculpture. Puis, chose autrement fascinante, c'est qu'elle vit en communauté religieuse. Donc, ça se reflète beaucoup dans son exposition.
Ah ouais? Comment?
Ben, je crois surtout par la présence de symboles religieux, mais aussi, par peut-être ce qu'elle dégage comme personne. C'est très, très... ancrée dans la spiritualité. Là. Son exposition s'appelle « Oser l'aventure de la création ». Donc, création artistique, mais on pourrait même aller jusqu'à création du monde, là, si on pousse vraiment dans l'aspect spirituel. C'est une exposition divisée en deux sections. Première section, donc, qui... qui reflète plus sa démarche là, habituelle, là, qui se nomme « Secret d'une passion ». Puis c'est composé en fait d'espèces de grosses structures qui rappellent en fait, puis je crois effectivement que c'est un peu ce à quoi s'attarde l'artiste, les grains d'un chapelet.
Ouais.
Donc ce sont elle travaille la pierre essentiellement. Le métal un peu parfois peut-être pour ajouter là, un peu de nuance, de texture là, à ces sculptures. Et donc, il s'agit de plusieurs de ces fragments de chapelet, mais version très agrandie, qui sont présentés dans la galerie. Donc, souvent, ces grains-là vont être pourfendus et un symbole qui apparaît, donc une main par exemple, la main de la création. Vous allez avoir de différents types de pierres aussi qui vont permettre de jouer justement dans la coloration, dans la texture. On va souvent faire aussi un rappel avec, bon, on parle des grains de chapelet, mais bon, les grains donc de la semence originelle, ouais. Donc ou encore qui rappellent parfois aussi l'œuf. D'ailleurs, le symbole de l'œuf revient là, à maintes reprises dans son œuvre, pas seulement celle présentée à Materia, mais dans son œuvre en général. Et on pourrait parler aussi de son aspect justement, là, elle utilise entre autres de la pierre agglomérée, donc fossilisée, qui peut aussi rejoindre l'idée de l'histoire, la trace, la fragmentation, c'est ça exactement, la continuité. Sa deuxième section, donc « Inutile gratuité », c'est une partie un peu plus ludique. Elle appelle elle-même son « jardin ». Donc, on y retrouve plusieurs œuvres, encore une fois, plus hétéroclites, plus ludiques, qui vont parfois aller plus de l'ordre, bon, de l'imaginaire, peut-être de l'enfance, ou encore qui fait des rappels avec la flore, donc la nature, des formes qui peuvent rappeler vaguement donc les oiseaux, les champignons, crapauds, la nature en général. Encore une fois, l'œuf, le nid, l'oiseau, les ailes d'oiseau est très, très présent. On travaille avec plusieurs matériaux, cette fois-ci, pas seulement la pierre et le métal, mais on va retrouver des tissus, on va retrouver du bois. Donc, c'est beaucoup plus peut-être accessible, encore empreint beaucoup de spiritualité dans la réflexion, dans la démarche. Donc, c'est une exposition donc quand même assez impressionnante, étant donné l'artiste, quand on sait justement son âge. Moi, ça m'impressionne
son beaucoup. Son âge, le fait qu'elle vient en communauté religieuse.
Exactement.
C'est assez surprenant.
Puis ce sont des œuvres assez récentes. Là, on parle de entre 2006 et 2010.
Donc, ah, quand même.
C'est quand même assez impressionnant. Je prends quelques minutes
mais
aussi
pour... Mais oui, tu nous amènes à la bibliothèque Gabriel Roy.
Exactement, pour vous parler d'une autre artiste. En fait, c'est Francine Courchêne. C'est une dame que j'ai moi-même déjà rencontrée, qui est une artiste du textile depuis plus d'une trentaine d'années, en fait, qui œuvre dans le textile, l'art textile, ici, en fait, sur la rive sud de Québec. Et elle a, disons, un historique d'exposition assez impressionnant. Mais je passe son exposition,
parcours.
Ouais, son exposition en fait qu'elle nous propose à Gabriel Roy, qui s'appelle Couvre-toi bien, qui fait référence donc bien évidemment au rôle premier que devrait avoir le textile, le
qui
tissu,
est celui de nous
couvrir,
protéger.
Nous réchauffer, nous réconforter, donc un peu la chaleur, la tendresse. Donc elle présente une série d'œuvres qui représentent des gestes affectueux. Donc c'est plusieurs séries d'œuvres qui ont été faites entre 2008 et 2010. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans son œuvre, c'est sûr, ça m'interpelle beaucoup puisque moi-même je fais du textile. Donc c'est un travail qui est fait à base de feutre.
Okay.
Le feutre est un textile qui est quand même assez complexe à reproduire et long. Et le travail que Francine Courchêne fait est, ma foi, hyper impressionnant. Là, il y a du travail là-dedans. Et une des choses qui passionne justement cet artiste-là, c'est l'univers du détail. Donc, il faut s'approcher de ses œuvres, vraiment regarder tout le détail qu'il y a. Bien sûr, c'est fait à base de feutre, mais on peut retrouver plusieurs autres techniques textiles à travers ça. Et là, elle arrive à créer des mondes, en fait, dans chacune de ses œuvres. Et c'est quand même une exposition assez impressionnante en termes de quantité d'œuvres. Ça vaut la peine de se rapprocher parce qu'elle aime beaucoup jouer avec le caché, le révélé, pouvoir... Donc, essayer de faire approcher le spectateur pour tranquillement révéler donc des détails qu'on voit pas nécessairement au premier regard. Donc, ça peut être intéressant. Et sinon, je pense que par-dessus tout, ce qui est le plus impressionnant, c'est vraiment l'aspect technique. Il y a du travail là-dedans. Là, c'est que pour l'avoir expérimenté moi-même, là, j'arrive même pas à la cheville là, de Francine Courchesne. Là, c'est vraiment impressionnant.
Puis si on connaît pas beaucoup l'art textile, on est impressionné aussi?
Oui, 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 puisque ben, c'est quand même assez accessible. Puis le cas de le dire, le titre est bien choisi, « Couvre-toi bien ». On sent tout l'aspect chaleureux, justement. Puis il y a quelque chose de raconté là-dedans. Tu lis les titres, tu comprends l'œuvre, c'est très accessible. C'est un lieu aussi, la bibliothèque, je trouve, qui est bien choisi pour une œuvre de cette envergure-là.
Donc, tu nous recommandes?
Oui, c'est à la bibliothèque Gabriel Leroy jusqu'au 20 février. Puis l'autre exposition, Marie-Hélène Alain, en fait, c'est jusqu'au 6 mars à la Galerie Materia.
Ben merci beaucoup, Dominique.
Ça fait plaisir.
C'est déjà l'heure de la fin de l'émission. Juste avant, peut-être deux, trois petites autres suggestions que j'ai pas mentionnées au calendrier. Un espace dont on parle pas souvent, mais qui accueille ces temps-ci, qui accueille en fait une artiste qu'on apprécie beaucoup à l'émission, c'est la galerie du Palais Montcalm avec l'exposition d'Annie Baillargeon, gymnastique signalétique. Il y a aussi à la galerie Le 36 l'exposition de Vincent Robitaille qui s'appelle « Heureusement ». L'Amérique. L'exposition de Paul Brunet à regard Apocalypso se termine le 20 février, donc dernière fin de semaine pour aller voir l'exposition. J'en profite pour remercier Michael Pinault et Yannick Nolin du collectif de l'établi pour l'entrevue qu'on a fait avec eux sur Sexy Polaroid. On remercie chaleureusement aussi Mme Esther Trépanier du Musée national des Beaux-Arts pour sa passion et sa fougue.
Vraiment.
Dominique Savoie, merci beaucoup.
Plaisir.
Je vous invite une dernière fois à nous écrire aérospatiale.ckrl@gmail.com. Je remercie aussi Jacques Gignac à la mise en onde qui est toujours aussi professionnel semaine après semaine. Écoutez, on vous laisse entre bonnes mains l'excellente émission Les Bâtards animée par Nicolas Dumont qui suit. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous.